On a bien aimé lui parler il y a une dizaine de jours, et je sais que les auditeurs aussi avaient beaucoup aimé son propos, le docteur Mathieu Simon, qui est chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On le rejoint au téléphone. Docteur Simon, bonjour.
Bon midi. J'avais bien aimé vous parler à vous aussi.
Ben, tant mieux. C'est pour ça qu'on remet ça. Dites-moi, j'aime bien, lorsqu'on parle à quelqu'un du milieu de la santé, commencer par un état de situation. De votre côté, à l'IUCPQ, est-ce que la situation continue effectivement de s'améliorer comme on le voit un peu partout dans la grande région de Québec?
Oui, ça s'améliore partout au Québec. À l'IUCPQ en particulier, on a réussi, sur la fin de la semaine dernière, à fermer un des étages qui était dédié à la clientèle COVID et à réattribuer ces lits-là à d'autres clientèles, notamment celle de chirurgie cardiaque, avec une reprise des activités plus grande. Alors, on fonctionne pas tout à fait à plein régime, là, il en manque encore un peu, mais la normalité revient tranquillement.
Docteur Simon, je sens une frustration. Je pense qu'elle est grandissante dans la région de Québec, sur la Rive-Sud aussi, sur le maintien en zone rouge. Puis probablement que c'est ce qui va être confirmé cet après-midi, alors que les chiffres pourraient même peut-être permettre à la région de Québec d'être en zone jaune avec la baisse des cas, la baisse des hospitalisations. Est-ce que vous comprenez la frustration et est-ce que vous comprenez aussi la décision du gouvernement Legault de nous maintenir en zone rouge?
Ben, je peux la comprendre. Présumons de rien, mais si on devait effectivement annoncer des allègements très légers, disons, d'ici au retour de la semaine de relâche, je pourrais très bien les comprendre. Il se passe, vous savez, il y a quelques semaines, le directeur de la santé publique avait mis des cibles pour le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas quotidiens sur la rive sud et la rive nord pour passer en jaune orange. Elles sont maintenant atteintes, ces cibles-là. Et la population, malheureusement, s'est accrochée à ça. Puis le directeur de la santé publique avait pas vu dans sa boule de cristal l'arrivée des variants qui inquiètent beaucoup de monde. Ce qu'on sait des variants, puis il y a malheureusement énormément de gens qui spéculent sur ce que ça pourrait donner. Là, on a entendu des projections là, catastrophiques, ouais, avec des 10 000 cas par jour au Québec. Il faut comprendre que c'est un scénario qui est extrême, qui peut être modélisé mathématiquement, mais qui, en tout cas, est improbable. Quand on regarde dans les pays où des variants sont apparus, notamment en Angleterre, mesures socio-sanitaires ont été installées, le variant, il a arrêté de se transmettre. Le variant, c'est pas un nouveau virus. C'est un virus qui est peut-être un peu plus contagieux, pas plus mortel, mais qui, effectivement, cause des soucis parce qu'on le connaît pas encore complètement. Et dans ce contexte-là, avec l'épée de Damoclès que fait pointer le variant au-dessus de nos têtes, que le ministre de la Santé ou que le premier ministre décide de remettre l'ouverture plus large en zone orange ou même mieux de la région de Québec et des autres régions et m'apparaît sensé. Ce qu'il veut pas faire, là, le premier ministre, c'est nous donner une réouverture, puis à cause d'une catastrophe pendant la semaine de relâche associée à un variant ou à des activités un peu trop rapprochées, revenir en zone orange, revenir en zone rouge par la suite. Alors, les Canadiens et les Québécois sont tannés du confinement, mais il n'y a rien de pire que de donner un congé pendant une semaine puis être obligé de revenir en arrière après. Ça, c'est vrai des individus. Mais imaginez le commerce. Là, si un restaurant ouvre puis qu'une semaine plus tard, il est obligé de fermer, c'est une catastrophe pour la main d'œuvre, c'est une catastrophe pour les denrées périssables. C'est pas évident. Là.
J'ai l'impression, Dr Simon, que il y a une majorité de gens, en tout cas une bonne proportion des gens, qui sont aussi méfiants envers les prévisionnistes qu'envers les sondeurs, par exemple, qui font des sondages politiques. On dit tout à l'heure, ils disent des chiffres, mais est-ce qu'on peut vraiment leur accorder de la confiance, de l'importance? Vous êtes capable de lire la matrice là, quand vous voyez des chiffres comme ça de l'Institut Fraser et autres. Est-ce qu'ils ont une bonne moyenne à date si on parle de la pandémie? Là, lorsqu'on voit les courbes, les prévisions, etc., est-ce qu'on a tendance à être trop alarmiste, trop optimiste? Comment on se situe?
Au Québec et au Canada, les prédictions sont toujours faites dans un intervalle de confiance, c'est-à-dire qu'on prévoit une moyenne de cas et on voit ce qui pourrait se faire dans le pire et dans le meilleur des scénarios. quand je regardais justement, parce que je prépare une présentation pour les médecins de famille de la région là-dessus, puis je regardais justement l'état de nos prévisionnistes et les scénarios qui se sont réalisés au Québec et au Canada ont toujours été dans la moitié inférieure de l'intervalle de confiance. C'est-à-dire que les scénarios catastrophes ne se sont pas matérialisés et on a réussi à aller plutôt vers la marge inférieure de la prévision, notamment en termes du nombre d'hospitalisations au cours des derniers mois. Mais vous savez, ça c'est très difficile parce que les prévisionnistes ont fait peur à ceux qui prennent des décisions. Ceux qui prennent des décisions ont été conservateurs et on se retrouve à battre la prédiction de façon favorable. Si on n'avait rien fait, si les prévisionnistes n'avaient pas fait peur aux décideurs, est-ce qu'on n'aurait pas justement frappé la catastrophe qui était annoncée? Donc, c'est méchant de leur dire qu'ils exagèrent toujours parce que ils ont exagéré peut-être, mais seulement par la perspective qu'on a fait quelque chose pour éviter la catastrophe annoncée. C'est comme le Titanic. Si le gars avait dit qu'il y avait un iceberg, plutôt dire qu'il n'y en avait pas, ben il serait peut-être rendu à bon port. Puis les passagers de la salle à dîner auraient peut-être dit, ma foi, les verres ont brassé quand on a arrêté le bateau, mais il serait en vie à ce moment-ci. Ben, peut-être plus maintenant, là, mais il aurait survécu à croisière. Alors, je suis heureux qu'il y ait des gens qui nous aient dit qu'il y avait des icebergs, qu'on ait freiné le bateau, puis qu'on ait évité la collision. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'il faut le voir.
Mais les variants, là, vous disiez tantôt, peut-être plus contagieux, peut-être moins mortels, mais au niveau des complications, parce que c'est ça, je pense, qui crée une situation qui est souvent difficile dans les hôpitaux, c'est les complications, les gens qui doivent être mis sous respirateur. Est-ce que ces variants-là peuvent causer davantage de complications ou il est juste plus contagieux, ou ils sont plus contagieux, ces variants-là, Dr Simon?
On n'a aucune évidence que les variants soient plus dangereux en termes de complications. Okay. Ils sont peut-être plus contagieux, mais encore là, c'est l'œuf ou la poule, parce qu'ils se sont manifestés dans des endroits où il y avait déjà beaucoup de contagiosité. Puis un variant, c'est pas très compliqué à expliquer, c'est qu'à force de se reproduire à une vitesse folle, le virus, il finit par faire des erreurs dans son code génétique. Et à partir du moment où il fait une erreur dans son code génétique, il survient soit un virus qui est pas viable, qui disparaît, ou un virus qui a des qualités supérieures. Et ce qui a fait peur aux épidémiologistes, c'est que là où le variant est apparu, il a remplacé la souche qu'on dit sauvage, la souche initiale du virus, en dedans de 2 semaines. Donc, il y a quelque chose chez ce virus-là qui lui donne un avantage par rapport au virus naïf natif, là, le sauvage. Ça fait peur aux gens, parce que quand un virus sélectionne un type de variant, ben c'est parce que soit qu'il se reproduit mieux, soit qu'il est plus contagieux et qu'il peut porter plus loin le matériel génétique du virus. Parce qu'un virus, c'est pas très intelligent. Tout ce que ça veut, c'est multiplier son espèce le plus loin possible. Alors donc, il y a beaucoup, beaucoup de spéculations. Puis moi, je suis pas un gars de spéculation, je suis un gars de fait. Quand on regarde au Royaume-Uni, quand le variant est apparu, ils ont mis un couvre-feu, ils ont mis des restrictions socio-sanitaires qui avaient été peu appliquées jusqu'à maintenant, puis ils ont la même courbe de réduction d'incidence et de mortalité du COVID que nous l'avons eu, nous autres, après les fêtes. Alors donc, il y a moyen de le vaincre. C'est pour ça, je pense, que le premier ministre est un peu anxieux, parce qu'il se dit, ma foi, là, si je lève un petit peu les restrictions, que le variant arrive, puis que je suis obligé de revenir en arrière dans 3 ou 4 semaines, ben c'est pas bon pour le moral de personne. Puis le COVID, là, si on fait face à un variant qui est effectivement 50% plus contagieux, pour dire quelque chose, c'est ce que les experts semblent dire, ça veut dire qu'on pourrait voir doubler les cas à tous les 4 à 6 jours. Donc aujourd'hui, on a à peu près 700 cas. Ça veut dire que si le variant arrive puis est assez prépondérant dans les prochaines semaines, on se retrouve à 1400 cas au bout de la semaine, on se retrouve à 2800 au bout de la semaine suivante, puis on est à 4000 cas dans 3 semaines. C'est le potentiel que ça a.
Ouais.
Est-ce que c'est un potentiel qui va se réaliser? Je ne l'espère pas, mais c'est à ça que le premier ministre réfléchit, là.
Je regardais vos propos dans le Journal de Québec hier. Vous disiez, ben, en même temps, par respect pour la population et les commerçants, et même au nom de la santé mentale, va falloir tôt ou tard déconfiner, mais faut pas le faire de façon trop rapide. Est-ce que si la situation se stabilise, est-ce qu'on peut espérer qu'effectivement, après la semaine de relâche, si on est toujours stable, on serait rendu à cette étape-là où on ne devrait pas déjà se dire « Ah, ben il va y avoir la crainte du variant. » Parce que ce qui fait mal, docteur Simon, c'est les espoirs déçus. T'sais, c'est le fait que la semaine dernière, le premier ministre nous disait « Oh, ça s'enligne bien. » Docteur Dontigny, la santé publique, nous disait « Si vous atteignez tel chiffre, on va passer au orange. » On l'a fait, ça n'arrivera pas. Là, on nous dit probablement que François Legault va dire « Après la relâche, on pourrait passer en zone orange si ça se maintient. » Mais là, je me dis, est-ce qu'on va encore nous dire « Ouais, mais il y a le risque, il y a le variant, on n'est pas assez vacciné. » Ça va être quand le bon moment pour en enlever un peu de pression?
Ben, je pense que le bon moment approche. À part le variant, l'autre facteur déterminant, c'est la vaccination. Puis là, ayant eu des grands retards au cours du dernier mois sur la vaccination, qui est une protection contre le variant, puis qui va probablement être la protection définitive contre les autres variants, parce que vous avez tout à fait raison, d'un virus, il va en produire d'autres variants. Il y en a déjà probablement 200 qui existent. Là, il y en a 3-4 qui ont défrayé les manchettes, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, la combinaison de l'apparition du variant et les retards dans la vaccination incite le premier ministre à être très, très prudent ce soir, je pense. Et je crois que quelque part en fin mars, mi-mars, quand les vaccinations vont reprendre et que les vaccinations des personnes vulnérables, parce que là, on a vacciné à peu près tous les résidents de CHSLD et de RPA. Il nous reste toute la population de 70 ans et plus qui est à la maison, dans sa maison à lui ou à elle. Ça va être les premiers à vacciner. Puis on annonçait que Pfizer allait reprendre ses livraisons puis qu'on allait avoir là, des millions de doses dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense qu'une fois qu'on va avoir vacciné cette personne vulnérable là, ben on va être beaucoup plus à l'aise de déconfiner, variant ou pas, en sachant que les hôpitaux seront pas pris d'assaut puis qu'il y aura pas ou très peu de cas sévères dans la population générale. Il y en a eu des cas là, chez des personnes de 40 ans, mais ils n'ont pas été légion.
Mais c'est parce que le problème, c'est qu'étant donné que la vaccination, présentement, c'est pratiquement au neutre là, pour la population générale, la question qu'on se pose, c'est quoi la zone qui pourrait nous donner d'air? Là? Est-ce que ça inclut, par exemple, salle à manger, des restos, les gyms? Est-ce que ça inclut les bars, par exemple? Est-ce que, par exemple, on pourrait ramener un peu les sports organisés? Tu sais, à un moment donné, ça va prendre une zone d'air qu'ils vont nous donner, étant donné que la vaccination est au neutre actuellement, Dr Simon.
Oui, est au neutre, neutre ralenti.
En population générale, c'est pas mal au neutre, là.
Il n'y en a pas eu. En fin de compte, la vaccination en dehors des RPA, CHSLD, puis travailleurs de la santé, il n'y a à peu près rien eu. Écoutez, c'est une très bonne question que vous posez. Puis pensez-y de la façon qu'un virologue y pense. C'est-à-dire que là, présentement, il y a des gens qui vivent sous un même toit, puis on accepte que ces gens-là, qui sont généralement jeunes puis en relative bonne santé, s'échangent le risque viral qui est associé avec l'école, avec le travail, avec la réouverture des commerces. La prochaine étape, c'est de permettre à cette bulle-là de sortir de la maison, du travail et de l'école, puis de rester dans sa bulle. Donc, les sports à petite quantité, ce qu'on annoncera peut-être ce soir, c'est-à-dire les activités extérieures. Je pense que le restaurant est la prochaine étape. Après ça, vous rentrez dans des zones où des bulles peuvent se s'entre-contaminer. Les sports d'équipe sont une belle occasion pour s'entre-contaminer parce que le jeune qui a pas le virus, qui s'en va jouer avec une équipe de soccer intérieur, et puis bon, c'est difficile de faire de la distanciation puis de porter un masque, ben là, il est en communication avec une vingtaine d'autres bulles familiales, une trentaine peut-être, et donc il peut attraper toute l'équipe, et les deux équipes peuvent attraper le virus, puis le ramener vers leur domicile où il y a peut-être des gens plus vulnérables. Les bars sont un autre exemple difficile parce que dans un bar, ben, tu vas là pour socialiser. C'est assez rare que tu vas dans un bar pour rester dans ton coin avec ton masque à siroter ta bière. Donc, un bar après une bière, t'es encore capable de te distancier. Après deux, c'est plus difficile. Puis après trois, ben, tu postillonnes sur le suivant. Alors, c'est probablement une des dernières activités qui va reprendre. Donc, je pense que les restaurants, les sports d'équipe par la suite et les bars en dernier lieu. Puis tout le reste entre les cinémas et autres choses, ça va être intermédiaire. Ce qu'il faut faire, là, c'est y aller par étapes. et se dire, OK, si cette étape-là m'amène à une recrudescence de la pandémie, ben je recule d'un pas en arrière. Si on fait un trop grand pas en avant, on ne saura plus qu'est-ce qu'on va devoir recouper, puis on va être obligé de tout recouper d'un coup, ce qui serait intolérable pour tout le monde, y compris moi-même, parce que je fais partie de la population qui est elle-même confinée pas mal.
Il y a des auditeurs, Dr. Simon, qui veulent vous entendre sur la stratégie de vaccination. Bon, on le sait, on n'a pas assez de vaccins. Le fédéral n'est pas capable de nous approvisionner efficacement, mais il y a toute la stratégie entourant la deuxième dose aussi, parce que là, quand ça va commencer à rentrer, les vaccins, il faudra donner une deuxième dose éventuellement à ceux qui ont été vaccinés en premier. Êtes-vous inquiet par cette stratégie-là et là, les impacts qu'on pourrait avoir à moyen terme?
Écoutez, on a fait une... La stratégie n'a pas été mauvaise, dans le sens que devant un bloc dans la livraison des vaccins, le gouvernement a décidé de vacciner le plus de monde possible avec une première dose. Puis écoutez, la mortalité, puis l'utilisation de ressources hospitalières à partir des CHSLD puis RPA s'est mis à fondre comme neige au soleil à partir de la vaccination. Donc ça, c'est un très excellent résultat. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on devrait vacciner les personnes les plus vulnérables avec une deuxième dose quand les stocks vont se refaire, ou plutôt étendre la vaccination à une population un peu moins vulnérable mais qui demeure fragile? Le calcul est difficile. On a des évidences maintenant que l'immunité persiste à 4 à 6 mois après la première dose, mais à quel niveau? Puis est-ce que c'est un niveau suffisant? Puis, est-ce que la deuxième dose va être intéressante? La seule étude qu'on a, là, c'est une vaccination après 3 semaines après la première dose. Donc, on sait absolument pas ce que ça va donner comme résilience dans la population. Présentement, on a un taux de réplication qui est faible. On a un taux de contamination qui est relativement limité. Je pense qu'il serait raisonnable de donner une deuxième dose rapidement aux personnes les plus vulnérables puis aux travailleurs de la santé qui les soignent avant de vacciner la population générale, reconnaissant que la population générale, dans la plupart des cas, n'a pas une infection qui est très sévère. C'est certainement pas agréable de faire le COVID, mais c'est très rare qu'une personne de moins de 50 ans se retrouve à l'hôpital avec des complications significatives.
C'est toujours sur la vaccination, Dr. Simon. La stratégie de prioriser Montréal pour la vaccination, je pense, ça se comprend très bien pour une question d'efficacité. Je veux dire, la situation c'est l'endroit au Québec où la situation est la plus difficile, mais en même temps, on nous dit, on va vacciner Montréal avant. Parce que c'est plus grave, mais nous autres aussi, on est en zone rouge. Vous pensez quoi de cette stratégie-là? On nous laisse en zone rouge, donc la situation est considérée comme très, très grave aussi à Québec, mais on va vacciner Montréal en priorité. Comment vous trouvez ça, vous?
Bon. Probablement que la pression de déconfiner la population pour toutes sortes de raisons qui sont bonnes, là, santé mentale, santé commerciale, retour vers la normalité. Vous comprenez que si vous relâchez Montréal sans qu'avec une très très grande densité de population, beaucoup de proximité, alors qu'il y a un faible taux de vaccination, les risques sont beaucoup plus grands que si vous relarguez le confinement à Lourdes de Blanc-Sablon où il faut faire exprès pour rencontrer quelqu'un. En termes épidémiologiques, ça se défend très très bien. Puis l'autre chose, c'est qu'avec le vaccin de Pfizer qui demande une congélation complexe puis qui peut pas être administré dans des pharmacies pour dire quelque chose, il faut qu'il le donne dans des très grands centres de vaccination et c'est difficile à organiser en dehors de très grandes villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, puis les autres plus grandes agglomérations de la province. Alors, je pense que oui, ça se défend. Mais encore là, c'est un choix de nécessité. Puis on ne devrait pas, avec ce qu'on était supposé avoir comme livraison de vaccins, en tout cas les assurances que le fédéral nous a données, on ne devrait pas être en train de faire des choix comme ceux-là. Parce que c'est comme si on vous demandait, on t'enlève la main droite ou la main gauche. Ben ouais, j'aurais préféré garder les deux. Et on avait prévu avoir les deux pour faire face au virus, ce qui malheureusement ne s'est pas concrétisé.
Est-ce qu'au moins, tout en étant prudent, Dr. Simon, on est capable d'essayer de s'attaquer au problème du délestage, là, des listes d'attente qui ont rallongé, puis à l'IECPQ, c'est un problème aussi particulier, des complications que ça peut engendrer. Est-ce que tout en demeurant prudent, il y a moyen de profiter de l'accalmie pour se rattraper un peu?
C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On a rattrapé beaucoup, comme je vous disais en début d'entrevue, on a réouvert un étage au complet. Puis cet étage-là, qui comporte 30-35 lits, est capable maintenant d'accueillir des gens qui attendaient des pacemakers, des angiographies, d'autres choses. C'est sûr que ce qui nous retarde un peu, c'est qu'il y a encore des cas de COVID dans la population. Puis il n'est pas infréquent qu'une personne qui rentre à l'hôpital pour un infarctus ou pour un problème de rythme se retrouve à être porteuse du COVID. Puis ça veut dire qu'il faut l'acheminer vers un lit dans une unité qui est protégée et où le personnel est équipé pour le distancer des autres patients qui n'ont pas le COVID sur l'étage. Puis ça, c'est le défi qu'on va avoir dans les prochains mois. C'est qu'on fait, on sera pas capable de fonctionner à plein régime parce qu'il va toujours falloir se garder une réserve pour les patients COVID qui viendront pas à l'hôpital parce qu'ils ont le COVID, mais qui vont venir à l'hôpital pour une chirurgie ou autre chose et qui vont être dépistés positifs parce que tout simplement, il y a encore des cas dans la population et qu'il va falloir protéger le reste de nos patients de la contamination.
Docteur Simon, c'était encore une fois très intéressant. Merci de nous avoir parlé.
Merci beaucoup.
C'est toujours intéressant de vous parler. Je vous remercie, puis bonne fin de pandémie. Tiens.
Merci. À bientôt, Dr. Simon. Dr. Mathieu Simon, qui est pneumologue intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec. Je sais que c'est pas toutes les réponses qui vous font plaisir.
Le but, c'est pas ça non plus.
C'est ça, même. Il y a des réponses qui viennent nous font mal un peu, à Jérôme et moi. Ben là, oui. On est là à vous parler des sports. Puis Dr. Simon dit, dans la logique, dans la suite des choses, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire en premier. Ça n'empêche pas qu'on peut questionner, qu'on peut s'opposer à certains aspects, mais c'est on ne peut plus pertinent de parler à quelqu'un qui le vit, là, qui gère des soins intensifs, qui vit les impacts du délestage, puis qui dit, même si je reconnais que les gens vont devoir respirer un peu, là, c'est peut-être pas le bon moment. C'est pas le meilleur moment encore.
Non, mais est-ce qu'à un moment donné, puis c'est pas drôle d'en être rendu là, mais étant donné que c'est au neutre, la vaccination, là, deux questions très plates, OK? Puis écoute, on va y reparler sûrement, mais on aurait pu parler deux heures avec lui, là. Mais est-ce qu'on devrait pas réfléchir à un moment donné à se dire, OK, combien de cas supplémentaires on est prêt à accepter pour redonner une partie de liberté aux citoyens, étant donné qu'il n'y a pas de vaccin, étant donné que les vaccins ne sont pas là. Combien de cas supplémentaires on est prêt à encaisser dans les hôpitaux? Parce que le risque zéro, il n'existe pas, là. C'est zéro cas, là. Je veux dire, on vivra pas ça dans les prochaines semaines, ni dans les prochains mois, là. Je veux dire, c'est un virus qui va revenir aussi, qui va être
présent. Non, mais en même temps, présent, tu vois, il dit que dans les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, excuse pas les RPA, les CHSLD,
ouais.
Le nombre de personnes de décès reliés à des éclosions dans les CHSLD, il dit, et je pense qu'il a dit mot pour mot, ça a fondu comme neige au soleil.
Ben, c'est ça.
Avec la vaccination.
Avec
donc,
la vaccination.
On n'a pas vacciné beaucoup. Là, c'est supposé de reprendre. Mais on sait qu'en ce moment, c'est au neutre, mais c'est supposé de reprendre. Mais ce qu'on a fait a déjà des impacts ciblés, mais a déjà des impacts. Donc,
sauf que logiquement, si la population générale n'est pas vaccinée, puis elle ne l'est pas présentement, ça veut dire qu'il y a des chances que le virus retourne en résidence. Parce qu'il y aura, à un moment donné, des nouveaux résidents qui vont y aller. T'sais, à un moment donné, il y a un roulement aussi dans les résidences.
Ouais.
Puis il y a le personnel, donc il faut que tu vaccines aussi la population générale aussi pour mieux protéger les gens qui sont en résidence. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir du nouveau personnel, il va y avoir des nouveaux résidents. Tu sais, il y a un impact aussi sur les résidences avec ça. Puis l'autre affaire, une question bien plate aussi, c'est que est-ce qu'on va arriver aussi, puis c'est toujours si les vaccins arrivent pas, là, est-ce qu'on va arriver dans une situation où on va dire, OK, on va demander aux 65 ans et plus de rester confinés, puis les plus jeunes vont recommencer à travailler comme avant, vont recommencer les activités, vont recommencer à faire rouler l'économie. Est-ce qu'on va être pogné pour arriver à un moment donné à ce questionnement-là aussi? Je me souviens que Clément Gignac me parlait de ça en entrevue au printemps passé, au début de la pandémie. Un scénario où on demanderait aux gens plus âgés, malheureusement, de rester confinés, mais de permettre aux gens en bas, mettons, de 65 ans, de reprendre leurs activités. Est-ce que l'absence des vaccins va nous forcer à refaire cette réflexion-là dans les prochaines semaines? J'espère pas, mais...
C'est intéressant. Il n'y a pas de réponse toute faite, Jérôme, mais la question mérite d'être posée. OK, 25226, si vous voulez nous écrire par messagerie texte. Je regarde dehors, ça n'a pas l'air beau encore sur les routes, ça doit être compliqué. S'il y a quoi que ce soit à signaler, n'hésitez pas, 670-9330, c'est la façon de nous joindre par téléphone. Vous écoutez Trudeau-Landry, on s'arrête.